Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche après Pâques, et selon la tradition, c'est le dimanche de la miséricorde qu'on a fêté selon la volonté du pape Jean-Paul II immédiatement après Pâques. Mais il était dans la tradition que le deuxième dimanche était le dimanche de la miséricorde, parce que il avait paru plus important dans l'Église de voir qu'il était très important que Jésus rassemble avant tous ses disciples qui s'étaient sauvés, les 12 apôtres, et le dimanche était tourné vers saint Thomas qui reconnaît lui-même par grâce du Seigneur, que le Seigneur, devant le manque de foi de Thomas, se présente à lui miraculeusement en entrant dans le cénacle sans passer par les portes. Le Seigneur montre qu'il est vraiment ressuscité, donc c'est toute la foi chrétienne. Et le rassemblement était très important, de notifier que ce rassemblement des apôtres était très important, parce que c'est eux qui vont être chargés par le Christ de l'accroissement de l'Église, qui démarre évidemment par un petit troupeau du départ, et toute l'histoire des 20 siècles qui nous séparent du Christ repose sur ce rassemblement miséricordieux de Jésus, qui, même à ceux qui sont en difficulté de la foi, le Seigneur apporte une puissance par son miracle pour que la foi puisse subsister, même pour ceux qui ont des doutes, et qui prépare aussi le chemin de la miséricorde du Seigneur, car le Seigneur, ayant été abandonné par tous, à part saint Jean et ceux qui étaient au pied de la croix, la Sainte Vierge évidemment, les purs qui étaient restés dans un amour très pur pour le Seigneur, les autres étaient toujours un peu désintéressés, et certains comme Judas, et ils ne sont pas revenus évidemment puisqu'il a choisi le mauvais camp, n'ont pas du tout compris la miséricorde du Seigneur, et lui met fin à ses jours, ne pouvant pas accepter l'idée même de la miséricorde pour les autres, et donc il ne l'accepte pas non plus pour lui. Il pense que le Seigneur ne peut pas pardonner ce crime terrible de la trahison qu'il a faite, et donc il choisit évidemment même de ne pas recevoir. Le Seigneur ne s'était pas présenté, mais le Seigneur avait envoyé la co-rédemptrice des grâces, celle qui a été au pied de la croix et qui a obtenu un grand pouvoir grâce là, Seigneur, dans la communion des saints. La Sainte Vierge, qui est sur le perron du Cénacle, aperçoit Judas, et Judas ne peut pas, elle lui dit « Judas, viens », et Judas ne peut pas. La Sainte Vierge est prête à pardonner au nom de son fils, après ce qu'elle a subi. Eh bien, Judas ne voit pas la miséricorde de la Sainte Vierge, donc il est devenu complètement aveugle. Le diable obscurcit sa vue jusqu'à la fin, et donc il prend le mauvais chemin et il va se suicider dans le fameux chant qu'on appellera le chant du potier, c'est-à-dire le champ où se font les choses à base d'argile qui s'édifient et qui se détruisent dans le monde. La fin des choses sont là manifestées chez Judas, mais le Seigneur, lui, en revanche, rassemble son troupeau de ceux qui sont bénévoles et bienveillants. Et Thomas, qui est un gentil garçon, évidemment, si on lit Maria Altortan, on voit l'importance de Thomas, qui était le bout en train du groupe, qui aimait cuisiner, qui avait une belle voix de baryton et qui chantait d'une manière charmante avec les autres apôtres. Sa crise de foi, le Seigneur l'a guéri par sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il fait un miracle pour qu'il rassemble évidemment les 12 apôtres qui sont nécessaires pour que puisse se répandre l'Église dans le monde. Vous voyez, donc, aujourd'hui, nous fêtons vraiment la miséricorde de Dieu qui est proclamée. C'est une fête importante parce que la miséricorde de Dieu nous est acquise par le Christ. Comme on se demande pourquoi Moïse, lorsqu'il rassemble, il fait sortir les Hébreux d'Égypte dans l'Ancien Testament, il les fait sortir et même le miracle les accompagne, la colonne de feu, il traverse la mer Rouge, il fait surgir l'eau du rocher, la manne est répandue, le Seigneur fait des miracles pour ce peuple qui traverse ce désert pendant, nous dit l'Écriture, pendant 40 ans. Mais que se passe-t-il pour Moïse quand il arrive à la terre promise? Il ne peut pas entrer, le Seigneur lui dit, tu n'entreras pas. Et pourquoi? Parce que il obéit à la loi, le Seigneur lui a donné la loi, et la loi ne permet pas d'accéder vraiment à la terre sainte promise, et donc Moïse ne peut pas arriver à la terre promise à cause de sa soumission. La loi ne suffit pas, la grâce ne suffit pas pour lui, il n'a pas la grâce, il a la grâce de la loi, ce dont Jésus nous prévient, nous dit, et saint Paul surtout, évidemment, étaye cette théologie de la grâce, et dit que c'est par le Christ que la grâce, nous ne sommes plus tributaires de la loi du péché, mais nous sommes tributaires de la grâce que le Christ nous a acquise, et le Christ, à ce moment-là, nous permet à nous d'entrer dans le royaume de Dieu qui est promis, c'est la terre promise, nous est promise par Jésus. Et donc Moïse, soumis à la loi que le Seigneur lui a dictée sur le mont Sinaï, ne peut pas arriver à la terre promise. Mais par Jésus, c'est saint Jean qui le dit au chapitre 17 de saint Jean d'une manière éclatante, c'est par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur que nous sont promises les fins dernières, et c'est par la grâce et la loi de Jésus-Christ qui est la loi de l'Esprit insufflée par le Christ et qui nous est obtenue par la croix du Christ. Donc cette miséricorde de Dieu, elle est donnée vraiment par le Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas être injuste. Rien de ce qui est Dieu, qui est l'Esprit de vérité, ne peut souffrir injustice. Or, il y avait une injustice par le péché qui venait depuis Adam et Ève, et donc le Seigneur, obligatoirement, ne pouvait pas rester d'une manière stable dans l'injustice, et donc il avait promis le salut par un prix qui a été payé pour que la justice de Dieu puisse être rétablie, et cette justice, elle se manifeste dans la miséricorde à cause du sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ sur la croix nous ouvre la terre promise par le Seigneur lorsqu'il fait ses promesses même à nos premiers parents, et tout le prophétisme annonce le Christ 33 ans, correspond à un chiffre important. Jésus meurt à 3 heures de l'après-midi. Il y a des 33 vertèbres dans le corps humain. Il y a un chiffre très important qui est attaché à ce chiffre 33 du Christ. Et cette miséricorde de Dieu, elle est venue s'inscrire dans l'humanité qui accepte le Christ, et cette justice de Dieu ne se perd pas à cause de la miséricorde et donc du sacrifice du Christ. Le sacrifice du Christ, c'est un sacrifice évidemment dans la souffrance. Moralement, le Christ nous le dit aujourd'hui, l'Écriture ne se plaint pas, il n'envoie aucune malédiction. Les lèvres sont restées, Jésus sont restées pures de tout mensonge. Il n'a pas maudit ceux qui le maltraitaient, il n'a pas menacé ceux qui le tourmentaient. Et quand il est, lui qui s'est chargé de nos péchés, les a portés dans son corps jusque sur le bois de la croix, c'est pas simplement un sacrifice moral, parce que c'est moralement, évidemment, le Christ fait un sacrifice incroyable. Moralement, il résiste à la nature humaine qui devrait se rebeller contre le mal et contre la souffrance. Le Christ accepte docilement, pour ça qu'on l'appelle aussi l'agneau, hein, l'agneau immolé, il se laisse sacrifier. C'est un sacrifice moralement de très haute vertu que le Christ fait, de ne pas répondre à la colère, c'est-à-dire de renverser la vapeur de la violence qui est inscrite dans la nature depuis le péché d'Adam. Mais c'est aussi un sacrifice qui est d'une beauté sublime, parce que le sacrifice porte une dimension esthétique. Le Christ offre à Dieu un bouquet étonnant, le bouquet de son amour. L'amour de ce, je le disais dans un dernier sermon, c'est l'amour qui ne se retire pas. Et c'est cet amour-là qui est présenté à Dieu. Il présente à Dieu cet amour incroyable qui est offert vraiment à Dieu d'une manière sublime, qui se trimballe dans le divin, comme, pardon, le mot trimballe n'est pas exact, qui se présente avec Dieu comme un bouquet magnifique, un bouquet esthétique de la puissance qui se dégage de cet amour. Et Dieu, évidemment, accepte la souffrance qui est traversée, mais il voit surtout la beauté du sacrifice du Christ, de cet amour qui est offert aux hommes et qui est renvoyé à Dieu. Et c'est cet amour du Christ qui est donné aux hommes, à chacun de nous, et qui est envoyé sur Dieu, qui fait un bouquet magnifique qui éteint la justice de Dieu, ne l'éteint pas, mais la transforme dans la miséricorde afin que soit rétablie la justice de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas être atteinte. Donc la promesse qui était faite, elle est réalisée par le Christ, et c'est ce bouquet d'amour qui est offert aux hommes et qui ensuite est présenté à Dieu, ce que les prêtres font dans le Saint Sacrifice de la Messe quand ils présentent le corps et le sang du Christ et que c'est offert à Dieu, qui sont dirigés toutes les prières de la Sainte Messe. Ce bouquet, c'est un bouquet esthétique, hautement moral, mais aussi un bouquet esthétique parce que le Seigneur, c'est le vrai, le bon. Le vrai, c'est la divinité et la justice de Dieu. Le bon, c'est la merveille que le Christ accomplit par sa vie terrestre, qui est un exemple étonnant. Le vrai et le beau, parce que c'est un sacrifice esthétique aussi. C'est cette majesté du Christ qui offre son amour aux hommes et qu'il offre à Dieu, qui accomplit la justice de Dieu, c'est-à-dire qui transforme la justice de Dieu en une vraie justice oblative, et qui fait toute la beauté et la magnificence du Christ, qui est notre Seigneur et notre Dieu. Et comme le dit Saint Jean au chapitre 17, c'est par cette grâce que nous sommes sauvés, donc par cette incroyable beauté du sacrifice que nous renouvelons chaque fois que nous offrons de manière non sanglante, mais qui nous ramène au pied du calvaire. Nous offrons à Dieu la force, la puissance, la bonté, la douceur du Christ, et cela se présente avec Dieu quand le prêtre élève les oblats qui sont présentés à Dieu. C'est un bouquet de beauté aussi esthétique, parce que c'est la splendeur de Dieu qui se retrouve, parce que la justice de Dieu, elle peut être accompagnée que du vrai, qui est la vérité de Dieu, qui nous a créés et appelés à la vie, la bonté de Jésus-Christ et la bonté de Dieu qui se réunissent, évidemment, dans ce moment du calvaire, et la beauté de notre religion, la beauté du Christ qui fait un bouquet esthétique de l'amour de Dieu qui retourne à Dieu par le sacrifice. Et la beauté du sacrifice du Christ, c'est aussi un sacrifice esthétique qui est très important. Donc pensons souvent, lorsque nous pensons à Jésus, que nous prions, pensons à Jésus, il est vraiment celui qui rétablit la vérité de la justice de Dieu, et il est celui qui est la bonté même, parce que Jésus est toujours miséricordieux, c'est pourquoi nous le proclamons aujourd'hui, sa miséricorde qui nous concerne évidemment tous. Nous sommes jamais abandonnés par le Christ. Vous avez vu le magnifique message de l'Épître aujourd'hui, où le Seigneur dit qu'il est le bon berger qui ne laisse pas tomber ses brebis, qui va chercher même d'autres brebis en dehors de son bercail, c'est-à-dire en dehors du peuple juif, universalité du salut. Et la beauté esthétique de ce berger qui n'abandonne pas ses brebis et qui rassemble le troupeau pour que nous puissions paître un jour dans les terres éternelles et bienheureuses que le Seigneur a promis à ceux qu'il a appelés à la vie, afin que nous puissions nous aussi, par le Christ et en toute justice, grâce au Christ, habiter la vérité, la bonté et la beauté du Seigneur Dieu Tout-Puissant que nous prions à chaque liturgie. Voilà, merci beaucoup. Nous disons cette messe aujourd'hui pour les familles de Bar, Coufignal et Robisco. Merci. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.